5. Le lundi, j'allais voir ma vieille amie, Madame Silvius, au secrétariat du lycée et lui demandais si je pouvais prendre le lendemain ma journée d'action solidaire à laquelle j'avais droit une fois par semestre. Elle se pencha vers moi, au-dessus de son bureau, et me demanda tout bas, sur le ton de la confidence, « Est-ce que je sens un garçon qui veut sécher les cours ?» Je te pose cette question, Charlie, car on demande généralement aux élèves de nous prévenir une semaine à l'avance quand ils veulent prendre leur journée d'action solidaire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. « Non, non, c'est pour de vrai, » répondis-je en la regardant droit dans les yeux, une technique que m'avait apprise Bertie Bird, très utile quand on mentait. « Je vais faire le tour des commerçants du centre pour leur vanter le programme. Adoptez-en un. »« Adoptez-en un. » Madame Silvius semblait intriguée malgré elle. Généralement, c'est adopter une route, un programme dans lequel je me suis engagé avec le K-Club. Mais j'aimerais aller plus loin. Intéresser des commerçants à l'opération, adopter un parc. On en a 6, vous le saviez. Ou adopter un passage souterrain. La plupart sont de vrais dépotoirs, c'est une honte. Et peut-être même adopter un terrain vague, si je peux convaincre. J'ai saisi l'idée. Elle prit un formulaire sur lequel elle griffonna quelque chose. Fais signer ça par tous tes professeurs et rapporte-le-moi. Au moment où j'allais ressortir, « Charlie, je continue à flairer une envie d'école buissonnière. Je la sens partout sur toi. » Je ne mentais pas vraiment sur mon projet d'action solidaire, mais je trafiquais un peu la vérité en disant que c'était pour cette raison que j'avais besoin de m'absenter une journée. Je profitais d'un intercours pour me rendre à la bibliothèque. Là, je dénichais une brochure de la chambre de commerce qui dressait la liste de tous les commerçants du centre et j'envoyais un mail collectif en changeant uniquement les formules de politesse et les noms des différents projets, adoptez-en un, auxquels j'avais pensé. Cela me prit une demi-heure. Il me restait donc 20 minutes avant que la sonnerie annonce le prochain cours. Je retournais au bureau de la bibliothèque et demandais à Madame Norman si elle avait les comptes de Grimm. Le livre, physique, n'était pas sur les rayonnages, mais elle me remit un Kindle portant la mention « Propriété du lycée de Hillview », imprimé à la DIMO derrière, et me donna un code à usage unique pour télécharger l'ouvrage. Je ne lus aucun des comptes, je me contentais de consulter la table des matières et de survoler l'introduction. J'appris, avec intérêt, sans être véritablement surpris, que la plupart des comptes de mon enfance possédaient des versions plus sombres. Ainsi, Boucle d'or et les trois ours provenaient d'un conte oral datant du XVIe siècle, dans lequel on ne trouvait aucune petite fille nommée Boucle d'or. Le personnage principal était une horrible vieille femme qui s'introduisait dans la maison des ours, cassait toutes leurs affaires et sautait par la fenêtre pour s'enfuir dans les bois en ricanant. Rumpelstiltskin, c'était encore pire. Dans la version dont je me souvenais vaguement, le vieux Rumpel fichait le camp en faisant la tête lorsque la fille chargée de tremper des pailles dans l'or devinait son nom. Dans la version des frères Grimm, en 1857, il enfonçait un pied dans le sol, saisissait l'autre et s'écartelait. Une histoire d'horreur digne de la série Saw. Le 6e cours de la journée, dispensé uniquement durant un semestre, s'intitulait « L'Amérique aujourd'hui ». Je n'avais aucune idée de ce que racontait M. Massensik. Je pensais aux récits imaginaires. Je songeais que le manège de la foire des ténèbres ressemblait au cadran solaire de cet autre monde, par exemple. Le secret de ma longévité, avait dit M. Bowditch. Jack avait volé l'or du géant. M. Bowditch, lui aussi, avait volé l'or de... De qui ? De quoi ? D'un géant ? De quelques démons sortis d'un roman populaire nommé Gog Magog ? Maintenant que mon esprit s'était engagé sur cette voie, je voyais des similitudes partout. Ma mère était morte sur un pont qui enjambait la Little Rumpel River. Et ce petit homme à la drôle de voix. N'était-ce pas ainsi que le conte décrivait Rumpelstiltskin ? Et puis, il y avait moi. Dans combien de récits imaginaires trouvait-on un jeune héros comme Jack à la recherche d'un pays fantastique ? Ou bien, prenez le magicien d'Oz. Une tornade emporte une jeune fille du Kansas pour la transporter dans un monde de sorcières et de mioches. Je n'étais pas Dorothy et Radar n'était pas Toto, mais...
Charles, vous dormez là-bas au fond? À moins que ma douce voix eurythmique vous ait hypnotisé. Fasciné?
Éclat de rire général, alors que la plupart des élèves ne connaissaient même pas le mot eurythmique. Non, non, je suis là.
Dans ce cas, vous pouvez peut-être nous donner votre avis éclairé concernant l'affaire Philando Castile et Alton Sterling.
C'est une histoire à la con. J'étais encore à moitié dans mes pensées et ces mots m'avaient échappé. Monsieur Massensik me gratifia de son célèbre petit sourire en coin.
Une histoire à la con, en effet. Vous pouvez replonger dans votre état de transe, monsieur Reed.
Il poursuivit son cours. J'essayais de me concentrer, mais je repensais à ce qu'avait dit madame Silvius. Non pas « Fifaï foufoum, je flaire le sang d'un breton », mais « Je continue à flairer une envie d'école buissonnière, je la sens partout sur toi ». Une coïncidence, très certainement. Mon père disait que si on achetait une voiture bleue, on voyait des voitures bleues partout. Mais après ce que j'avais découvert dans le cabanon, j'étais forcé de m'interroger. Et il n'y avait pas que ça. Dans un récit fantastique, l'auteur trouverait un moyen pour que le jeune héros puisse explorer ce monde que je commençais à baptiser « l'autre ». Par exemple, l'auteur pourrait inventer un séminaire auquel ses parents devaient assister pendant plusieurs jours, une façon de dégager le terrain pour permettre au jeune héros de visiter ce monde mystérieux sans provoquer un flot de questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. Coïncidence ? Songeais-je au moment où retentissait la sonnerie annonçant la fin du cours et où tous les élèves fonçaient vers la porte. Syndrome de la voiture bleue. À cette différence près que le cafard géant n'était pas une voiture bleue, pas plus que ces marches de pierre qui s'enfonçaient dans l'obscurité. Lorsque je demandai à M. Massensik de signer ma dispense, il me fit son petit sourire.
« Une histoire à la con, hein ?»«
Désolé. »
En fait, vous n'aviez pas tort.
Je filai sans demander mon reste et me dirigeai vers mon casier.
Charlie ?
C'était Arnetta Freeman, assez superbe dans son jean moulant et son débardeur. Avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules, Arnetta était la preuve que tout n'était pas à jeter dans l'Amérique blanche. L'année précédente, quand j'étais plus sportif et un peu plus célèbre après ma prouesse du Turkey Bowl, Arnetta et moi, on avait fait plusieurs séances de révision dans le salon au sous-sol de la maison de ses parents. On avait travaillé, mais on s'était surtout beaucoup embrassé.
Salut Arnie. Quoi de neuf ?
Tu veux venir à la maison ce soir ?
Me proposa-t-elle.
On pourrait réviser pour l'examen sur Hamlet.
Ses yeux bleus plongeaient dans mes yeux marrons.
Ce serait avec plaisir, mais... Mon père part demain, presque toute la semaine, pour son boulot. Alors je préfère rester à la maison.
Oh zut, dommage.
Elle serrait tendrement deux livres contre sa poitrine.
Mais je peux mercredi soir. Si tu es libre, évidemment.
Son visage s'illumina.
Ce serait génial.
Elle prit ma main et la posa sur sa taille.
Je t'interrogerai sur Polonius, et toi tu m'interrogeras sur Fortinbras.
Elle déposa un baiser sur ma joue et s'éloigna, avec un déhanchement ensorcelant. Pour la première fois depuis mon passage à la bibliothèque, je ne pensais plus au parallèle entre le monde réel et les mondes imaginaires. Mon esprit était focalisé sur Arnetta Freeman. 6. Mon père partit de bonne heure le mardi avec son sac de voyage et sa tenue « Expédition dans les bois », pantalon de velours côtelé, chemise en flanelle et casquette des berzes. Il avait jeté un poncho de pluie sur son épaule.
Ah, « La météo prévoit de la pluie, » dit-il. « C'est mort pour l'escalade dans les arbres. Et ça ne me rend pas triste. »«
Eau gazeuse à l'heure de l'apéro, hein ?»
Il sourit.
« Avec une rondelle de citron, peut-être. »«
T'en fais pas, fiston. » Lindy sera là et je resterai avec lui.
Prends soin de ta chienne. Elle recommence à boiter.
Je sais. Il m'étreignit brièvement, d'un bras, et m'embrassa sur la joue. Alors qu'il faisait une marche arrière dans l'allée, je l'arrêtai d'un geste et courus vers la voiture. Il baissa sa vitre.
J'ai oublié quelque chose ?
Non, c'est moi.
Je me penchai par la vitre ouverte pour passer mon bras autour de son cou et l'embrasser à mon tour. Il m'adressa un sourire dubitatif.
Oh, « Quel honneur !»«
Je t'aime, voilà tout.
»« Moi aussi, Charlie. »
Il me tapota la joue,
recula jusque dans la rue et prit la direction de ce foutu pont. Je le regardais disparaître au loin. Sans doute qu'au fond de moi, je savais quelque chose. 7. Je sortis radar. Notre jardin était minuscule comparé à celui de M. Boditch, mais suffisamment grand malgré tout pour permettre à Radar de se dégourdir les pattes. Je savais néanmoins que ses jours étaient comptés. Si je pouvais faire quelque chose pour l'aider, il fallait que ce soit bientôt. De retour à l'intérieur, je versais dans sa gamelle plusieurs cuillerées du reste de pain de viande de la veille, dans lesquelles je cachais un comprimé. Elle engloutit le tout voracement et se coucha en boule sur le tapis du salon, un endroit qu'elle avait déjà réquisitionné. Je la grattais derrière les oreilles, ce qui lui faisait fermer les yeux en souriant à tous les coups.
« Il faut que j'aille vérifier un truc, » dis-je.
« Sois sage, je reviens le plus vite possible, ok ?
Essaie de ne pas chier dans la maison, mais si tu ne peux pas te retenir, choisis un endroit facile à nettoyer. »
Sa queue frappa plusieurs fois le tapis. Ça me suffisait. Je pédalais jusqu'au 1 Sycamore Street en guettant le drôle de petit homme qui marchait et parlait d'une drôle de façon. Je ne vis personne, pas même Madame Richland. J'entrai dans la maison, montai directement au premier étage, ouvris le coffre-fort et attachai le revolver autour de ma taille. Malgré les comptes chauds et l'étui de cow-boy, je n'avais pas l'impression d'être un as de la gâchette. J'étais un ado effrayé. Si je tombais dans cet escalier en spirale, combien de temps faudrait-il avant que quelqu'un me retrouve? Si on me découvrait un jour, et que découvrirait-on également? Dans son enregistrement, M. Boditch disait qu'il ne me léguait pas un cadeau, mais un fardeau. Je n'avais pas bien compris sur le coup, mais en prenant la lampe électrique dans le placard de la cuisine et en la glissant dans la poche arrière de mon jean, l'évidence s'imposa. Je marchais jusqu'au cabanon, en espérant qu'une fois arrivé au pied de cet escalier de pierre, je découvrirais non un couloir qui menait à un autre monde, mais un amoncellement de gravats et une petite étendue d'eau croupie. Et pas de cafards géants. Je me fous de savoir s'ils sont inoffensifs ou pas. Pas de cafards. J'entrais dans le cabanon, promenais le faisceau de ma lampe autour de moi et constatais que le cafard tué par M. Boditch était en train de disparaître dans une flaque de substance grise visqueuse. Lorsque je l'éclairais, une des plaques sur ce qui restait de son dos se détacha, me faisant sursauter. J'allumai les deux lampes alimentées par batterie, m'approchai des planches lestées par des parpaings qui couvraient le puits et braquai la lampe dans un des interstices d'une dizaine de centimètres de large. Je ne vis que les marches qui s'enfonçaient dans les ténèbres. Rien ne bougeait. Je n'entendais aucun bruit de cavalcade. Cela ne me rassura pas pour autant. Je songeais à cette réplique entendue dans des dizaines ou même une centaine de films d'horreur à deux balles. C'est trop calme. Je n'aime pas ça.
Ne sois pas bête, ce silence est un bon signe, me dis-je. Mais quand je regardais ce gouffre de pierre, cette idée manquait de force. Je savais cependant que si j'attendais trop longtemps, j'allais me dégonfler. Et ce serait deux fois plus dur par la suite, ne serait-ce que de revenir jusqu'ici.
Alors je glissai la lampe dans ma poche arrière de nouveau, soulevai les parpaings et fis glisser les planches sur le côté. Après quoi je m'assis au bord du puits, les pieds sur la troisième marche. J'attendis que les battements de mon cœur ralentissent, un peu, puis me levai en me disant que les marches étaient assez larges pour mes pieds, ce qui n'était pas tout à fait exact. Avec mon avant-bras, j'essuyai la sueur sur mon front en me répétant que tout allait bien se passer. Sans y croire vraiment. Malgré tout, je commençais à descendre. 8. 185 marches de hauteur différentes, avait dit M. Boditch, et je les comptais en descendant. Je progressais très lentement, le dos plaqué au mur incurvé, face au vide. Les pierres étaient rugueuses et humides. Je gardais la lampe braquée sur mes pieds. Hauteur différente. Je ne voulais pas trébucher. Le moindre faux pas pouvait m'être fatal. Arrivé à la marche numéro 90, soit moins de la moitié, j'entendis un bruissement en contrebas. Je m'interrogeais. Devais-je braquer ma lampe en direction du bruit? Si j'effrayais une colonie de chauves-souris géantes qui se mettaient à voltiger tout autour de moi, j'étais quasiment certain de tomber.
C'était un raisonnement logique, mais la peur fut plus forte. Me décollant légèrement du mur, je suivis avec ma lampe la courbe descendante de l'escalier et découvris une forme noire tapie une vingtaine de marches plus bas. Lorsque le faisceau lumineux la frappa, j'eus juste le temps d'entreapercevoir un de ces cafards XXL avant qu'il détale dans le noir. Je pris plusieurs inspirations. Je me dis que tout allait bien sans y croire et poursuivis ma descente. Il me fallut 9 ou 10 minutes pour arriver en bas car je progressais au ralenti. Cela me parut encore plus long. De temps à autre, je levais la tête vers l'entrée du puits. Ce n'était pas particulièrement réconfortant de voir le cercle éclairé par les deux lampes rétrécir de plus en plus. J'étais dans les profondeurs de la terre et je continuais à m'y enfoncer. J'atteignis le bas de l'escalier à la 185e marche, en effet. Le sol était en terre battue, comme l'avait indiqué M. Bauditch. Quelques blocs de pierre s'étaient détachés du mur, tout en haut, sans doute, où le gel puis le dégel les avaient décelés avant de les éjecter. Dans sa chute, M. Bauditch avait réussi à agripper une fissure dans une des niches libérées par ces blocs, ce qui lui avait sauvé la vie. Ces pierres tombées les unes sur les autres étaient maculées d'une matière noire. De la merde de cafards, devinai-je. Le couloir était là. J'enjambais les pierres pour y pénétrer. M. Bauditch avait raison, là encore. Je n'avais pas besoin de baisser la tête pour avancer. Les bruissements étaient plus audibles maintenant, droit devant. Sans doute les chauves-souris dont m'avait parlé M. Bauditch. Je n'aime pas les chauves-souris. Elles transportent des germes, parfois même la rage. Mais elles ne me font pas horreur, contrairement à M. Bauditch. En approchant du bruit qu'elle produisait, j'étais plus curieux qu'autre chose. Ces marches étroites, de hauteurs différentes, qui entouraient le vide, m'avaient mis les nerfs en pelote. Mais maintenant que j'avançais sur un terrain solide et plat, ça allait beaucoup mieux. Certes, des milliers de tonnes de roches et de terre s'entassaient au-dessus de ma tête, mais ce couloir était là depuis longtemps, et je ne pensais pas qu'il allait choisir précisément ce moment pour s'effondrer sur moi. De plus, je n'avais pas à craindre d'être enterré vivant. Si le toit s'écroulait, je serais tué sur le coup. Très joyeux. Je n'étais pas d'humeur joyeuse, non. Mais ma peur avait été remplacée, masquée, du moins, par l'excitation. Si M. Bauditch avait dit vrai, un autre monde m'attendait droit devant. Maintenant que j'étais venu jusqu'ici, je voulais le voir. L'or était la dernière de mes préoccupations. Le sol en terre battue cédait la place à de la pierre, des pavés, plus précisément, comme dans ces films diffusés sur TCM qui représentaient le Londres du 19e siècle. Les bruissements étaient juste au-dessus de ma tête maintenant. J'éteignis la lampe. Le noir complet raviva ma peur. Tant pis, je ne voulais pas me retrouver au milieu d'un nuage de chauves-souris. C'était peut-être des vampires. Peu probable dans l'Illinois, mais je n'étais plus vraiment dans l'Illinois. Si ? J'ai continué à avancer pendant presque 2 kilomètres, avait dit M. Bauditch. Alors je comptais mes pas jusqu'à ce que je perde le fil. Au moins, je ne craignais pas que la lampe rende l'âme car les piles étaient neuves. J'attendais de voir apparaître la lumière du jour en écoutant les légers battements d'ailes au-dessus de ma tête. Ces chauves-souris étaient-elles réellement aussi grosses que des vautours ? Je ne voulais pas le savoir. Enfin, j'aperçus la lumière. Une vive étincelle, comme l'avait décrite M. Bauditch. Je continuai à avancer et l'étincelle prit l'apparence d'un petit cercle, assez lumineux pour imprimer une image résiduelle sur mes paupières quand je fermais les yeux. J'avais oublié cette sensation de vertige dont avait parlé M. Bauditch, mais lorsqu'elle me frappa, je compris exactement ce qu'il voulait dire. Un jour, je devais avoir 10 ans environ, Bertie et moi, on s'était amusés à hyperventiler, comme 2 idiots, avant de s'étreindre de toutes nos forces pour voir si on allait s'évanouir, comme le prétendait un copain de Bertie. Aucun de nous deux ne s'était évanoui, mais j'avais la tête qui tournait et j'étais tombé sur le cul, comme au ralenti. J'avais la même impression. Je continuais à avancer malgré tout, mais je me sentais comme un ballon gonflé à l'hélium qui flottait au-dessus de mon corps. Et si la corde lâchait, je partirais dans les airs. Puis les vertiges refluèrent, comme pour M. Bauditch. Il avait parlé d'une frontière. Je venais de la franchir. j'avais laissé Sentry's Rest derrière moi. L'Illinois. L'Amérique. J'étais dans l'autre. En atteignant l'ouverture, je constatais que le plafond du tunnel était en terre. De fines racines y pendaient. Je baissai la tête pour passer sous une sorte de lierre et déboucher à flanc de colline. Le ciel était gris, mais le champ d'un rouge écarlate. Les coquelicots tissaient une magnifique couverture qui s'étendait à droite et à gauche, aussi loin que portait mon regard. Un chemin le traversait jusqu'à une route. Passé cette route, d'autres coquelicots continuaient sur plus d'un kilomètre, semblait-il, jusqu'à un bois touffu qui me rappelait les forêts qui bordaient autrefois ma ville de banlieue. Si le chemin était presque effacé, ce n'était pas le cas de la route, en terre mais large, une véritable artère. À l'endroit où le chemin rejoignait la route, se dressait un joli petit cottage. De la fumée sortait de la cheminée de pierre. Sur des cordes à linge étaient suspendues des choses autres que des vêtements. De loin, je ne voyais pas ce que c'était. En scrutant l'horizon, je distinguais la silhouette d'une grande ville. Une lumière du jour brumeuse se reflétait dans les plus hautes tours comme si elles étaient en verre. Du verre, vert. J'avais lu Le Magicien d'Oz et j'avais vu le film. Je savais reconnaître une cité d'émeraude.